On va prendre un Ubiour et c'est en bas de la page Sadik Dalet.
Sadik
D'accord?
Dalet.
Donc on est
Sadik
dans
Dalet.
notre troisième cours sur le quatrième pérek de Igaret Hatshuva. Je pense qu'on aura cinq cours. D'accord? On a fait les quelques premières lignes, les cinq six premières lignes, on les a déjà faites, mais je vais les repasser. Alors, de quoi on est en train de parler en ce moment? Dans les trois premiers chapitres de Igaret Hatshuva, on a fait un point sur l'aspect niglé de la tchouva, c'est-à-dire sur l'aspect dévoilé de la tchouva, sur l'aspect halakhique. D'accord? Donc on a fait le point, c'est quoi la définition de la tchouva? La tchouva, c'est-à-dire décider de ne plus refauter, à quoi servent les korbanot, comment les korbanot peuvent être remplacés par les jeûnes, comment les korbanot peuvent être remplacés par la tzedaka. Ça, c'est le point qu'on a fait dans les trois premiers chapitres de Guéret. C'est le point qu'on a fait dans les trois premiers chapitres de Guéret la tchouva. Très bien. Ensuite, on est arrivé au quatrième chapitre, on a dit maintenant, on va essayer de comprendre les rouages de la Teshuvah. Et c'est là que c'est le plus important. Jusqu'à présent, c'est seulement une introduction. On est d'accord?
L'idée.
C'est-à-dire que très souvent, on apprend la halakha, on comprend quelque chose, mais après, à un certain moment, on reste sur sa fin. Pourquoi on reste sur sa fin? Parce que la chassidoute, elle nous apprend à toujours à chercher à comprendre le rouage qu'il y a derrière. D'accord? La halakha, elle vient, elle te dit, pour que ça marche, il faut qu'on sort. Pour que ça marche, il faut que tu appuies sur ce bouton. Alors, on ne te pose pas de question pourquoi ce bouton, pas celui-là. Tu appuies celui-là, ça marche, celui-là, ça ne marchera pas. C'est pas tes affaires pourquoi oui, pourquoi non. Ça, c'est la halakha. Ce qu'on a étudié, c'est dans les trois premiers chapitres de Guéret HaTchouva. On a dit, voilà, la halakha, tu veux faire tchouva, décider de tout recommencer, les korbanot, remplacés par les jeunes, par la tzedaka. On a expliqué, c'était assez technique. Non, on a envie de comprendre le fond de la tchouva. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le capot? Hein, vous rappelez, on a dit, on va ouvrir le capot. Bon. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, l'Admor HaZaken a dit un point très important. Il a dit, pour comprendre ce qui se passe, d'abord, on comprend pas du tout ce que c'est la Teshuvah. Puisque, d'un côté, on nous dit qu'il y a des Averot sur lesquels impossible de faire Teshuvah. D'accord? Impossible de faire Teshuvah sur certaines Averot. D'un autre côté, tu me dis que non! Il y a la Teshuvah d'en haut, la Teshuvah d'en bas. Alors, c'est quoi ça, cette histoire, la Teshuvah d'en haut, la Teshuvah d'en bas? Donc, encore une fois, on aimerait comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'apparemment, il y a des fonctions cachées. Voilà, puisqu'on a dit, ouvrir le capot.
Ouais.
Apparemment, il y a des fonctions cachées, c'est
On est
ça
rentré dans le
le
BIOS.
secret.
Ah,
Ah
on l'a
oui.
pas dit encore. On rentre dans le
Il y a des
BIOS.
fonctions cachées. En bas de la page de Galette, oubliez rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on va essayer de retrouver. C'est quelles sont les fonctions officielles? Et après, il y a les codes, comme dans les jeux comme ça, il y a des codes.
Ouais.
T'as accès directement à des mondes et tout. Comme ça que ça marche,
Tu mets
David?
le cheat et tu mets les codes.
Je sais plus, moi.
Mais là, c'est juste.
Je sais pas. Vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça. Donc il y a les codes pour avoir de nouvelles armes, pour avoir plus de force, pour avoir
Un bonus, des bonus.
plus d'argent pour acheter des
Nos
choses,
limites.
voilà. Et des bonus, d'accord? Donc, c'est de la même manière, quand on va ouvrir le capot, on va comprendre que, de la même manière, quand on va comprendre comment le juif est formé, on va comprendre qu'il y a plusieurs manières de faire teshuvah. Et qu'il y a des choses sur lesquelles officiellement on ne va pas faire teshuvah, mais officieusement on pourra faire teshuvah. Après, l'Admor HaZaken a dit qu'avant même d'expliquer ce que c'est la teshuvah, pour comprendre ce que c'est la teshuvah, il faut d'abord démonter le moteur. Il faut d'abord voir avec qui on a affaire. On parle du peuple juif, on parle du Ham Israël. D'accord? Donc on va d'abord démonter, on va devoir expliquer qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre la manière comment le Ham Israël a été créé et les autres ont été créés. On est obligé d'expliquer ça avant même d'expliquer qu'est-ce que c'est une mitzvah, qu'est-ce que c'est une avéra, qu'est-ce que c'est la tchouva. Avant même d'arriver à là, on doit d'abord expliquer qu'est-ce que c'est un juif. Et comment un juif, il a été conçu différemment dès le départ. C'est rien à voir. Bon. Alors comment on a expliqué ça? Brièvement, ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué, c'est écrit Khelek Hashem Amo. Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et il leur dit, sachez que même lorsque les choses ne vont pas, et que bon, les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Sachez que quand même, Khelek Hashem Amo, le peuple juif est une partie intégrante de quoi? Allez, monsieur, on se réveille. Le peuple juif est une partie intégrante de quoi? De Hashem. Ça veut dire quoi, Hashem? Yudke Vavke. Vous vous rappelez, on va essayer de rafraîchir notre mémoire. On a expliqué la semaine dernière que lorsque Kadosh Baruch Hu a créé Adam Harishon, c'est écrit qu'il a, exactement, il a insufflé. Alors, on a expliqué, bien sûr que chez Kadosh Baruch Hu, ni il a soufflé, ni il a insufflé. D'accord? Mais quand on dit souffler et insuffler, c'est un exemple, c'est une image, pour nous montrer quoi? Quelle est la différence entre une personne lorsqu'elle souffle et lorsqu'elle insuffle? Quoi la différence?
On avait dit.
Oui?
On avait dit.
On rafraîchit la mémoire.
On avait dit que insuffler, ça venait plus profondément, plus profondément.
Bien. Alors comment on a illustré ça? Par exemple.
Il prend, il perd de la force.
Souffler, c'est quand on parle.
Voilà, par exemple, quand on parle. Voilà. Et je peux parler pendant des heures, ça me fatigue même pas. C'est la tête qui est fatiguée, peut-être, mais bon, la parole ne fatigue pas. Alors qu'insuffler, en quelques secondes, je suis HS. Pourquoi? Comment ça se fait? Puisque insuffler, c'est beaucoup plus profond. On avait dit, il y avait ce qui est superficiel et ce qui est profond. Insuffler, c'est profond, alors que parler, c'est un souffle qui est, entre guillemets, extérieur.
Insuffler, on peut comparer ça à quelqu'un qui sonne les chauffards, par exemple.
Oui, bien sûr, ouais, c'est la même chose. Ça souffle tout de suite. Oui, ça fatigue tout de suite. Parce que ça vient du fond. Refais. C'est vrai qu'ils sont, chez eux, ils ont. Craftania. Ça te dit, David, ça, hein? Craftania. Il y a la voix déjà, là. La voix. Bon. Donc, on a expliqué que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé toutes les autres créatures, comment il les a créées? Il les a créées comment, les autres créatures? Toutes les autres créatures.
Par la parole.
Par la parole. Vayomer Elohim yor, vayayor. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit seulement. Alors que lorsqu'il a créé l'homme, qu'est-ce que c'est écrit? D'accord? D'abord, il a formé l'homme, mais après, qu'est-ce que c'est écrit? Vaipar peapav nishmatraim. Il a insufflé en lui une neshama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a investi, entre guillemets, beaucoup plus. Alors, ça veut dire comme, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu s'investit de la même manière, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'investit beaucoup plus. C'est une manière pour nous de nous montrer que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il y a ce qui est, entre guillemets, superficiel, il y a ce qui est profond. Et nous, on a accès à un canal profond, qui n'a rien à voir avec un canal superficiel. Alors, il a expliqué, il a dit attention. Quand je dis que l'homme Israël est particulier, c'est pas seulement par rapport aux plantes, ou par rapport aux goïms, ou par rapport aux animaux. Non. C'est même par rapport aux malachim. Même les malachim, dans quel canal ils sont? Dans le canal de la parole. Quand les malachim ont été créés soit le premier, soit le deuxième jour, il y a un remède, il y a une allusion dans ça dans la Torah, mais c'était toujours par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, qui ou amar, vaïei. Dieu a dit, vaïei, et ça a été existé. On dit aussi, ouvro arpiv, kol sevam, avec le souffle de la bouche, le souffle, pas insufflé, le souffle de la bouche, kol sevam, toutes les armées de malachim, toutes les armées de myriades de malachim ont été créées par le souffle de la bouche. Alors que les Neshamot Yisrael ont été créés comment? Ont été créés en insufflant. Bien sûr, c'est une image pour dire quoi? C'est une image pour dire que c'est beaucoup plus profond. D'accord? Donc, avec ça, on a expliqué, c'est ça la différence entre Hachem et Elohim. Elohim, c'est quand ça prend un caractère superficiel. Et on dit que même les Malachim, ils sont appelés Elohim. Vous vous rappelez? Plusieurs endroits dans le texte, les Malachim sont appelés Elohim. Alors que le Ham Yisrael, il est appelé comment? Même lorsqu'il faute! Qui chélek dans la paracha Azinu, on dit qui chélek Hachem, Avayé. Qui chélek Hachem Amo, que le peuple juif est une peuple de Avayé, est une partie de Avayé, de Dieu, de Yudke Vavke. Pourquoi Yudke Vavke? C'est pour nous montrer que c'est un autre canal. Alors on s'est arrêté sur ça la semaine dernière. On va essayer de décortiquer ensemble maintenant qu'est-ce que c'est Yudke Vavke. On a fait quelques lignes la semaine dernière, mais on va les reprendre. D'accord? Donc on va essayer de décortiquer qu'est-ce que c'est Yudke Vavke. Là on a expliqué en gros. On a expliqué que c'est deux canaux différents. Il y a un canal qui est superficiel et un canal qui est profond. Nous, on a le canal profond. D'accord? Avec ça, progressivement, on va expliquer qu'est-ce qu'on fait quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une avera. Là, on est en train de démonter le moteur. Bon. D'accord. Donc là, on a déjà dit qu'il y a Avayé et Elohim. Il y a le superficiel et il y a le profond. D'accord. Maintenant, c'est quoi? En quoi, moi, je retrouve Yudke Vavke dans ma vie? Bon, tu me dis que je suis comme ça, je veux bien te croire, mais en quoi je retrouve ça? Alors, pareil, on va devoir décortiquer encore une fois. On va d'abord expliquer qu'est-ce que ça veut dire Yudke Vavke. Yudke Vavke, donc les lettres de Ado, virgule Naï. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça a à faire dans la création du monde. D'accord? Comment le monde qui est créé par Yudke Vavke est différent. Après, on va essayer d'expliquer comment on va retrouver ces quatre niveaux-là de Yudke Vavke, comment on va le retrouver dans la Neshama. Comment ça va correspondre? Tout va correspondre.
Pourquoi est-ce que lorsqu'on veut dire Yudke Vavke, pas à prononcer parce que Kohen Gadol qui pouvait prononcer ce mot, hein?
Non, oui, bon, nous on le prononce quand on fait la Tfilah. Oui?
Non, on le prononce pas justement.
Ah, tu dis on dit pas d'accord, on dit pas, oui, d'accord, oui.
Pourquoi est-ce qu'on le remplace par Hashem? Pourquoi ce nom-là précisément?
Au lieu de Géo.
Au lieu, non, d'un autre.
Je sais pas.
Hashem, c'est le nom de Dieu, quand Meshem, le nom.
Oui, non, mais c'est pour dire,
Adon, c'est mon maître, oui, mais pourquoi ce nom-là, je sais pas.
Parce qu'il y a 99 noms de Dieu.
Oui, alors, je sais pas.
Vous notez la remarque.
Prenez note, s'il vous plaît.
Non, mais au bout de 3, tu sors, hein, si tu comprends.
Ah oui.
Je l'ai fait encore remplacer.
Tu sautes, on prend quelqu'un de
Donc, où on en était? On a expliqué que les Bnei Israël, ils ont été créés par Yud-Ké Vav-Ké, d'accord? Et alors que les autres ont été créés par le canal Elohim. Canal superficiel, canal profond. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Oui.
Bon. Maintenant, on va essayer de décortiquer un peu plus qu'est-ce que c'est Yud-Ké Vav-Ké. Ça correspond à quoi Yud-Ké Vav-Ké? Bon. Tiens. Page Tzadik Dalet, en bas de la page. 186, voilà. Tzadik 187, en fait. En bas de la page. Ou Viou Reinyan. Donc, je vais aller un peu rapidement les premières lignes, puisque les premières lignes, on les a déjà. Kanoda Mimamar Eliaou. C'est connu ce que Eliaou Navi dit. Ant ou de apikat asar tikunim. Toi, Kadosh Baruch Hu, de toi sont sortis 10 tikunim. C'est quoi 10 tikunim? Ve Karinan Leon, on les appelle asar sfiran. On les appelle les 10 sfirot. Lean aga beon al min stimin. Avec lesquels, à Kadosh Baruch Hu, tu diriges des montres qui sont cachées. Bon. On continue. Ant Hakim Vela Bechorma Yedia. Ant Mevin Vela Bevina Yedia. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es Chacham, mais pas avec une Chorma qu'on connaît. Et tu as la Bina, mais pas avec la Bina qu'on connaît. Je lis encore deux lignes. Vechol Ayut Firot, Nichlalot, Venir Mazot, Beshem Abaye Baruch. Voilà, je voulais en arriver. Dans le Yudke Vavke, on va retrouver toutes les 10 Firot. Très important ce qu'on va expliquer. Quand on va expliquer que dans le Ham Israël, on va retrouver toutes les 10 Firot. Et c'est pour ça que quand on dit que le Ham Israël, correspond à Yud-Ké Vav-Ké, ça veut dire que dans le Ham Israël, on va retrouver les 10 Sfirot. Et dans notre vie de tous les jours, comme on expliquera après, on va retrouver les 4 lettres de Yud-Ké Vav-Ké. Alors on va commencer lettre par lettre. Yud-Ké Vav-Ké. D'accord? Déjà, on va essayer de les analyser ensemble avant d'avancer. On va essayer de les analyser graphiquement.
Ah, tu me les avais dit.
D'accord? Déjà. Attends. J'ai commencé que le Yud, c'est tout ce que j'ai fait.
L'idée.
D'accord? Alors, dans le Yud, on a deux choses. D'accord, le Yud, tout d'abord, c'est la lettre la plus petite de l'alphabet graphiquement. Est-ce qu'on est d'accord?
Okay.
Bon. À part ça, sur le Yud, c'est obligé dans la halakha. Vous remarquerez que sur le Yud, tiens, David, c'est un petit mec d'un stylo. D'accord? C'est toujours ce qu'on appelle un tag. D'accord? Voilà, je vous le...
Alors, avec le tag,
Voilà. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un Yud. D'accord? C'est comme un petit lamed, en vérité. Ça, c'est le Yud, et en haut, on a un petit tag. C'est obligé, s'il n'y a pas ce tag, le lettre n'est pas caché.
Le tag, c'est le point.
Non,
c'est le point
qui repasse. Tu parles
le tag dans les sphères Torah, pas dans les livres.
Oui, d'accord. Même, tu sais que même dans les livres, en général,
non, moi,
les
ponts repassent.
Regarde, même dans les livres, tu verras, toujours le yud, il monte un petit peu. C'est toujours une petite pointe.
C'est la pointe.
Ouais, toujours. Même dans les caractères d'imprimerie. Bon, ils ont pu ne pas le faire comme ça, mais... Et que dans les lettres de Rashi, qui n'est pas ça. Dans les lettres de Rashi, le yud, il n'a pas cette pointe. Alors, ça c'est le Yud. Donc, le Yud, on a dit, c'est la lettre qui est graphiquement la plus petite. Le He, c'est quoi la différence entre le He et le Yud? D'accord? Le He, on remarque tout de suite une certaine largeur et une certaine longueur.
Voilà.
On est d'accord? D'accord? Donc là, déjà, on va analyser graphiquement. Après, on va décortiquer. Donc, le Yud, c'était la plus petite lettre. Sur le Yud, il y avait une petite pointe, une petite antenne. D'accord? Ensuite, le He va représenter l'élargissement. Ça va s'élargir, et ça va aussi s'allonger, les deux. Ensuite, le Vav, d'accord? Le Vav, il est long, mais il n'est pas large. Est-ce qu'on est d'accord?
Mm-hmm.
Oui? Le Vav, il est long, d'accord? Donc il est long, c'est une lettre qui est longue, mais il n'est pas large. Et ensuite, on repasse encore une fois au He. Bon. Alors c'est important de comprendre tout ça, parce qu'on va expliquer comment, par rapport à ça, on va décortiquer le processus de la création du monde et le processus comment les idées se font. D'accord? Je vais expliquer d'abord à l'oral, après on fera dans les mots. Quand j'ai une idée, comment ça se passe? J'ai une idée, par exemple, tel que le Midrash explique, dit par exemple, j'ai une idée, j'ai envie d'un palais. Voilà, un roi qui a envie d'un palais, j'ai envie d'une maison. Bon. Il y a plusieurs étapes, ça vient pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, c'est pas tout d'un coup. Tout d'abord, j'ai une volonté profonde.
C'est une volonté.
J'ai une volonté, mais c'est une volonté. Vous savez, des fois on a envie de quelque chose, on sait pas trop ce qu'on veut. Je sais pas ce que je veux. C'est-à-dire, ça c'est avant même que tu arrives à définir que tu veux quelque chose. Que tu as l'idée. C'est même pas encore l'idée. La volonté, c'est encore plus fort que l'idée. Puisque c'est la volonté qui amène l'idée. Est-ce qu'on est d'accord? Sans la volonté, il n'y a pas d'idée.
Tu pourrais dire
une personne qui n'a pas de volonté, qui est par exemple qui se lève, il n'a rien envie de faire, il n'aura pas d'idée ce jour-là. Pourquoi il n'a pas d'idée? Parce que c'est la volonté qui amène l'idée. Donc la première chose la plus importante, c'est avoir la volonté.
Ça, c'est un fait douche.
Seconde, j'arrive.
Parce que
Il a une volonté. D'accord ? Donc il a une volonté, c'est-à-dire qu'il a une volonté très profonde, qu'il ne sait même pas qu'il a. Cette volonté va donner naissance par la suite à une idée. Donc on prend mon exemple. Voilà, par exemple, il a envie d'avoir un palais, une maison. Bon. Tout d'abord, il avait une volonté profonde. J'en ai marre de cette maison, je veux une belle maison. Mais des fois, il ne le sait même pas. C'est une volonté profonde, quelque chose de très profond, qu'il n'arrive même pas à exprimer. Après, cette volonté va prendre forme, chorma, une idée. Tac, un jour, il se lève, un matin, il a un flash, il dit, c'est comme ça que je veux ma maison. Tac, tu m'as, tu le bouges plus mal. Il a un flash. Il a vu, dans sa tête, tout de suite, il a un flash, il voit tout. Il voit les chambres, il voit tout. Là, il voit l'image de sa maison, il voit une photo. On est d'accord ? Ensuite, mais c'est une image, c'est un flash, d'accord ? Il voit comme ça, il voit une image. D'accord ? Ensuite, on avait expliqué, la deuxième étape, c'est l'étape de la Bina, c'est quoi ? C'est l'étape dans laquelle... Ah, ça c'est sa femme, je vais dire, attends, réfléchissons.
Comment on va payer ?
Alors, telle chambre, d'accord ? Dans telle chambre, ça c'est la chambre des enfants, ça c'est la chambre des parents, et tel lit ici, et tel canapé ici, et ici le salon, etc. Ça c'est Bina déjà. D'accord ? Bina, c'est quand tu prends, tu rentres dans les détails. Là, t'as vu l'image, comme ça, t'as eu l'image. Après, la femme dit, attends, on va prendre cette image, on va la décortiquer. Là, il y a un problème. Oui, c'est facile, c'est pas elle qui a eu l'idée. Ça, c'est Bina. Mais pour l'instant, on n'est pas encore passé à la pratique. Pour l'instant, c'est du vent. Il n'y a rien pour l'instant. On a eu une volonté profonde, après on a eu l'idée, et après on l'a décortiquée. Il n'y a rien pour l'instant. Après, troisième étape, d'accord ? Alors, je reprends donc dans mon...
Les sentiments.
Dans les quatre lettres du Yud Kevavke. Donc, la pointe qu'il y a sur le Yud, c'est la volonté. C'est ce qu'il y a de plus subtil et de plus fin. C'est quelque chose qui... Ça n'a même pas de forme. À la limite, je suis même pas au courant que je l'ai. Si je n'ai pas d'idée, je ne serai même pas au courant que j'ai cette volonté profonde. C'est seulement une fois que j'aurai l'idée, je dis, ah, je comprends pourquoi je n'étais pas bien. Mais des fois, on a des volontés profondes comme ça qu'on n'est même pas au courant qu'on les a. Et c'est seulement des années après qu'on a un flash, on dit, ah, c'est pour ça que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, ça c'est la pointe du yud. La pointe du yud, c'est la volonté. En dessous de la pointe du yud, qu'est-ce qu'on a ? On a le yud. Le yud, c'est un petit point. C'est le flash. Pourquoi c'est un petit point ? Parce que c'est un flash qui peut partir très rapidement. D'accord ? Qui peut partir très rapidement. Ensuite, vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on a eu après le yud ? On a eu le hé. Le hé, d'accord ? Élargissement et prolongation. Il y a les deux. On va expliquer après pourquoi, à quoi ça représente le horaire et le rocha. Parce que dans la tête aussi, on va retrouver la longueur et la largeur. Vous allez voir, je vais expliquer. La largeur, ça représente quand je prends un concept et je le développe. D'accord ? Et la longueur, c'est quand je prends un concept et je le fais descendre. Ça veut dire, j'essaie de le passer en pratique. Vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois. La largeur, c'est quand je prends un concept et j'essaie de le développer dans les détails. La longueur, c'est quand je prends le concept et j'essaie de le passer dans la pratique. J'essaie de réfléchir comment, par exemple, je fais la liste des courses. Vous savez, voilà, la dernière fois, j'étais chez Ikea. D'abord, tu fais ton plan de la cuisine, tu fais le plan, tu le mets en largeur, etc., tu mets dans les détails. Et après, à un certain moment, tu cliques sur un bouton et tu te dis, voilà, liste des achats. Voilà, liste des achats, c'est quand tu prends le plan, tu vois, tu... Donc, quand j'ai fait mon plan, bah, je l'ai élargi, d'accord ? C'est-à-dire, j'ai pris les détails, j'ai élargi. Et après, liste des achats, c'est quoi ? Ça veut dire, pour avoir cette cuisine-là, tu dois acheter ça et ça, c'est quand tu prends le plan et tu le fais descendre. D'accord ? Ça, c'est longueur, largeur. Bon, de toute façon, on retrouvera ça dans les mots. Ensuite, le vav. Le vav, c'est quoi ?
Donc, on n'est plus dans le yud, on est passé là.
Ah, ça y est, j'étais parti du yud. J'étais dans le hé.
Le yud, c'est que l'idée.
Le yud, c'est que l'idée. Le hé, c'est quand je développe l'idée et j'essaye de la passer en pratique. C'est-à-dire, je réfléchis, voilà, pour arriver, donc je dois faire les courses ici, je dois faire ci, j'essaye de la passer en pratique. Donc, je descends. D'accord ? Je descends, j'essaie de faire descendre l'idée dans le monde réel. Le vav, d'accord ? Le vav, c'est quand, à tel point, je m'attache à l'idée, d'accord ? Le vav, on expliquera après, ça correspond au midot. Tu écris David ou pas ? D'accord ? Le vav, ça correspond au midot, c'est-à-dire tellement je m'attache à l'idée que je ressens la chose. C'est même plus une idée que j'ai eue. Vous savez, bon, des fois, il y a une idée. Ça m'empêche pas de dormir, j'y pense pas quand je me réveille, j'ai une idée. Mais après, des fois, tellement on a réfléchi à l'idée, tellement on voit tous les détails, et tellement on a réfléchi comment on peut passer à la pratique, que tu dors avec, tu te lèves avec.
C'est les sentiments, ça?
C'est les sentiments. C'est-à-dire que là, déjà, on a eu un sentiment. D'accord? Vous savez, comment on retrouve ça? Par exemple, quelqu'un, il vous a embêté. Bon. Donc, le cerveau, il a compris, quelqu'un, il a embêté. Si vous ne réfléchissez pas au fait que vous embêtez, votre cerveau va l'oublier. Vous allez dormir le soir, vous allez vous lever le matin, vous allez l'oublier. Qu'est-ce qui fait ça peut nous empêcher de dormir ou se lever le matin? C'est quand le cerveau, il travaille, il t'a vu ce qui m'a fait ta 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 ta. Tellement tu réfléchis, qu'est-ce qui se passe après? Ça se convertit en sentiment. Une fois que ça se convertit en sentiment, là, je me suis attaché à la chose, et là, ça fait partie intégrante de ma vie. D'accord? Là, je dors avec, je me lève avec. Ça, c'est le vav. Le vav, c'est quand tellement j'ai réfléchi à mon idée, que maintenant, c'est devenu une mida, c'est devenu un trait de caractère. Ça fait partie de mes envies, ça fait partie de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Ça, c'est le vav. Le hé, comme on expliquera après, ben, on va le voir. Le hé, ça représente la parole. C'est quoi la parole? La parole, c'est la mise en exécution. C'est le plus important. Voilà, donc on va essayer de donner des définitions. Donc, on a dit, la pointe du yud, c'est quoi? C'est la volonté, très profonde, que je n'arrive même pas à exprimer. Le yud, on a dit, c'est l'idée. Le hé, après, c'est le développement. D'accord? Comme vous avez un business plan, d'accord, vous avez l'idée. Le hé, c'est quand tu fais le business plan. Mais t'as rien touché encore, t'as rien payé, t'as rien fait encore.
Tu fais le plan.
Tu fais le plan. Alors, le business plan, il doit être parfait. D'accord? Ça veut dire qu'on doit savoir où on doit chercher, qu'est-ce qu'on doit faire, comment ça va se passer. Il doit être parfait, on doit savoir ce qui va se passer à long terme. Ça, c'est le hé. Le premier hé. Le vav, c'est quand, après, une fois que j'ai fait mon business plan, je m'attache à l'idée. Ah, je suis partant, je suis chaud bouillant. Ça, c'est le vav, déjà. Et le hé, c'est quand je passe en pratique. Je commence à parler, ça veut dire je commence, comme on expliquera après, le dibourg. C'est-à-dire que c'est quand je commence à me mettre en pratique, à rentrer dans le vif des choses. C'est-à-dire mon plan a commencé à démarrer. Alors, de la même manière. Oui, on va expliquer après pourquoi, quel rapport avec la parole. On va expliquer tout ça. D'accord? Alors, donc on va lire ça ensemble dans les mots déjà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici?
C'est clair, ouais. D'accord. Sauf le point de départ.
La pointe.
La pointe, cette volonté, d'où elle vient? Est-ce que, parce que,
elle vient
parce que quand t'as vraiment une volonté comme ça, des fois on peut comprendre avec un désir. Le désir, lui, vient du cœur.
Quand on a une, non. Encore une fois.
Bonne question.
Ça, c'est la différence qu'il y a entre les hommes et les animaux. D'accord? C'est la chose suivante. Enfin, la différence qu'il devrait y avoir entre les hommes et les animaux. C'est que, chez les animaux, oui, c'est l'instinct qui domine le cerveau. Ça veut dire, par exemple, il doit manger une proie, il a faim. Donc il a un instinct qui doit manger. Donc puisqu'il a un instinct qui doit manger, son cerveau, il va lui servir à quoi? Il va lui servir à réfléchir comment je peux manger ce qui est en face de moi. Pas est-ce que je dois le manger. Non, ça, je dois le manger. Mais comment je vais m'y prendre? Ça veut dire que l'instinct domine le cerveau. Chez l'homme aussi, ça peut être comme ça, si on se maîtrise pas. Ça peut avoir des gens, il a envie de quelque chose. Et non seulement que son cerveau ne va pas le retenir, au contraire, son cerveau va l'aider à arriver à ses fins. Ça, c'est la pire des choses. C'est quand on utilise son cerveau pour arriver à ses fins négatives. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait se comporter normalement. Normalement, c'est le contraire. Normalement, c'est le cerveau qui devrait créer l'instinct.
Oui.
C'est-à-dire que le cerveau, il doit réfléchir, on doit avoir un business plan à long terme. Et une fois que j'ai mon business plan, c'est là qu'après, je vais essayer de m'identifier et je vais essayer de me lancer. Mais si c'est le contraire, ça marche pas. Si on démarre par l'instinct, d'accord, et que le cerveau sert uniquement à dominer l'instinct, l'instinct dit voilà, écoute, moi j'ai envie de ça, débrouille-toi, je veux l'avoir, et que le cerveau il sert à ça, là on peut devenir encore pire qu'un animal.
Oui, c'est ça. Mais comment tu fais pour savoir que ta volonté c'est pas un désir qui est caché?
Comment je peux savoir que ma volonté c'est pas un désir qui est caché?
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait c'est un désir.
C'est un désir, c'est l'instinct.
Oui, mais c'est caché par la morale.
Justement, ça dépend, est-ce que c'est quelque chose de réfléchi, d'accord, est-ce que c'est quelque chose que je réfléchis, ou est-ce que c'est quelque chose d'instantané?
Oui, mais avant, on commence à avoir au départ.
De manière générale, d'accord, il y a d'autres courants, même de la chassidoute, dans lesquels on privilégie beaucoup l'instantané. Et on te dit, bon, peu importe ce qui se passera après, peu importe ce qui est passé avant, c'est l'instantané qu'il faut. Dans chassidoute Rabat, on explique que c'est pas du tout comme ça. En tout cas, selon la Shita Rabat, c'est pas comme ça. Selon la Shita Rabat, c'est du long terme. C'est-à-dire, tout se calcule, tout se réfléchit, les choses se passent pas comme ça, c'est pas arrive Simchat Torah, je me mets à danser. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a un travail de fond à faire. D'accord? Et ça veut dire que si la personne ne se travaille pas avec de l'instantané, bah, ça veut dire que c'est un instinct. Après, on a des bons instincts, peut-être. Ça veut pas dire que c'est forcément mauvais. Mais, de manière générale, il faut s'habituer à ce que c'est le cerveau qui crée les instincts. Ça veut dire que j'ai un plan, j'ai envie d'arriver là, et une fois que j'ai réfléchi et que j'ai compris que c'est mon plan, alors progressivement, je vais adhérer à ce plan. Pas le contraire. Pas que, j'ai une envie et que mon cerveau va me servir seulement à réfléchir comment arriver à cette envie. Donc je reviens à notre sujet. On va commencer donc point par point. De toute façon, tout ce que j'ai expliqué, d'accord, on va relire dans les mots. Comme ça, ça nous fera un deuxième passage. Alors, qui a Yud? Vous savez qui a Yud? Normalement, on est à la page...
Troisième ligne,
page 188. Je vais aller un peu vite des fois parce qu'il y a des notions que j'ai déjà expliquées à l'oral. Qui a Yud, Chei, Prinat, Nekuda, Levad. Le Yud qui est uniquement graphiquement un petit point. Mais Ramez, Zet, Lechormato, Idbarer. Donc rappelez-vous, on essaye de comprendre le rouage de la création du monde, et on explique comment dès la création du monde, dès l'instant T de la création du monde, les juifs ont été créés différemment. Donc par rapport à ça, on expliquera après que puisqu'ils ont été créés différemment, ils ont été conçus différemment, donc ils vivent différemment. Très bien. Alors maintenant, on revient à...
Les abréviations, c'est... Comment t'as pu lire Yud Barer sur le Yud?
Ah, c'est bon, c'est comme ça, c'est les abréviations kabbalistiques. D'accord? Donc là, maintenant, on revient à l'instant T de la création du monde. D'accord?
Non, c'est vrai que c'est déjà à déchiffrer, c'est pas évident.
Bon,
un mot sur deux,
il est... Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Qui a levad, meramezet le chormato idbarer. Le yud, qui est donc un petit, graphiquement un point, fait allusion à la chorma de... Donc rappelez-vous, on revient à l'instant T de la création du monde. À l'instant T de la création du monde, le yud représente la chorma de Dieu. Chehi, iprinat elem veester kodem sheba l'iprinat itpashtut vegilu yasaga vavana. C'est quoi la chorma? C'est l'idée... Comme on a expliqué, l'idée avant qu'elle soit développée. Alors, entre parenthèses, ve'akot shalayud, le point qu'il y a sur le yud, la pointe du yud, romez liprinat ratson ayon baruchu, fait allusion à la volonté de Dieu, shelmala mala liprinat chorma ila kanoda, qui est encore beaucoup plus haut que chorma ila, ça veut dire que déjà avoir un flash. Ça, on le retrouve dans la vie de tous les jours, comme je vous l'ai expliqué. La volonté, c'est quelque chose qui est des gens qui peuvent avoir des volontés profondes et qui meurent sans savoir qu'ils ont eu cette volonté.
Alors
c'est comme ça. Et un jour, ils ont une idée. Pourquoi ils ont eu l'idée? Parce que peut-être ils ont vu quelque chose qui leur a rappelé quelque chose et ça fait qu'ils ont eu l'idée. Des fois, ils n'auront jamais l'idée. Et pourtant, la volonté est au fond. Des fois, on a un certain malaise par rapport à quelque chose, où on sent qu'il manque quelque chose. C'est impossible de définir.
Est-ce que la
impossible.
Volonté, c'est quelque chose de top?
Bien sûr, c'est quelque chose de top.
Alors, est-ce qu'il y a des méthodes pour essayer de savoir quelles sont tes volontés que tu connais?
Non, les méthodes, c'est de rechercher constamment.
Voilà, mais comment?
Il y a des méthodes pour chercher du travail. Comment faire pour trouver du travail? Il faut chercher constamment.
Le travail, c'est dire, tu lis le journal, tu fais les annonces.
Ah oui? Là, on fait les annonces.
À l'intérieur. Comment tu fais pour chercher ta pointe du jeu à l'intérieur?
On peut pas la chercher. Par définition, une idée, c'est quelque chose qu'on peut pas chercher.
Alors?
Ah oui, c'est comme une trouvaille.
Tu mets ça?
Non, par définition, la seule chose que tu peux faire, tu peux te mettre en condition pour trouver une idée.
Ah, comment?
Voilà. Par exemple, tu essayes d'être en forme, tu essayes de réfléchir, non, tu essayes par exemple de regarder, quelqu'un qui cherche une idée pour faire du travail. Qui dit, bon voilà, ce matin, je me lève, faut que je trouve une idée, une nouvelle affaire, l'affaire du siècle.
Je cherche un logo.
D'accord? Il va pas trouver. S'il se lève comme ça, il va pas trouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à prendre des magazines, d'accord? À lire un peu management, etc., des trucs comme ça, pour prendre des idées. Et peut-être qu'il aura une idée, peut-être que ça prendra 20 ans qu'il aura une idée au bout de 20 ans, peut-être qu'il n'en aura jamais. Possible que oui, possible que non. Une idée, c'est aléatoire, c'est comme une trouvaille. Est-ce que tu peux marcher dans la rue et dire, aujourd'hui, je vais trouver 100 euros? Tu peux pas, impossible. Par définition, une trouvaille, c'est quelque chose qui se trouve. Une idée, c'est la même chose.
Les meilleures idées, c'est celles qui surgissent comme ça.
Bien sûr.
Mais, je veux dire, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a un plan par rapport à ça? Et est-ce que quand tu te mets des idées, même si tu n'en as pas conscience?
Ah ben bien sûr. Après, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Kadosh Baruch Hu, quand il a envie que tu aies une idée, il voit que tu percutes pas, tu vois.
Oui.
Donc il va faire en sorte que tu vas passer devant quelqu'un qui a fait la même chose, voilà, qui a fait un truc similaire. Ça, c'est les affaires de Dieu, ça. Dieu, il s'arrange pour qui va être sur ton passage.
Oui,
pour essayer de te faire des appels de phare. Mais l'idée, c'est toi. Et des fois, il y a des gens, ils percutent pas, ils voient pas, on leur fait des appels de phare, ils voient rien. Ça, c'est les affaires de Dieu, après. Bon, après, Kadosh Baruch Hu, il vient, il nous met des trucs sur le passage pour dire, regarde. Des fois, les gens, ils voient, des fois, les gens, ils voient pas. C'est pour ça que le Baal Shem Tov répétait très souvent à ses élèves, il leur dit, habituez-vous à regarder et analyser tout ce qu'il y a autour de vous.
Voilà.
Même les forces du mal, tout ce qu'il y a autour de vous, analysez, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Toujours un message qu'on vous envoie. Parce que si Kadosh Baruch Hu a fait que tu as vu ça, c'est qu'il y a un message. C'est quoi le message? Encore une fois, pourquoi le message? Parce qu'on a toujours des volontés profondes, mais qu'on n'arrive pas à définir. On n'arrive même pas, on sait même pas qu'on a cette volonté profonde. Donc c'est quoi la pointe du Yud? La pointe du Yud, on a dit, correspond à... Allez, messieurs, on s'en va. La pointe du Yud correspond à...
L'idée.
Non, l'idée, c'est déjà le Yud. La pointe du Yud correspond à quoi?
À la volonté profonde.
À la volonté. Ensuite, dès qu'on commence à décortiquer l'idée, là, à ce moment-là, on va arriver à quelle lettre? Après le yud, on a quelle lettre?
Hey.
On a le he. Graphiquement, c'est quoi la différence entre le yud et le he? D'accord?
Et
un dalet avec un vav.
C'est, alors comment on dit? C'est le, d'abord, ça s'est élargi, et ça s'est aussi allongé. D'accord? Élargi, allongé. Ça correspond à quoi? Elle explique. Nichlelet, venir, venir, mais et chez Yeshla, que la lettre E a deux choses. Premièrement, elle a, il fâche toutes les rochaves. Premièrement, la lettre E s'est étendue en largesse. Ça veut dire qu'elle s'est étendue, elle s'est élargie. Amore ou Meramez, elle a chavat et biur va avana. Ça symbolise quoi? Ça symbolise le fait qu'on a pris l'idée et qu'on l'a élargie. On l'a décortiquée. C'est comme vous prenez quelque chose qui est compressé, vous allez le décompresser. C'est-à-dire vous allez chercher les détails que vous n'avez peut-être pas vus. Pourtant, ils étaient déjà là, mais on les a peut-être pas vus. Ça, c'est l'élargissement. Rochav. Rochav en hébreu, ça veut dire quoi? Rachav. Ça, c'est l'élargissement. Vous remarquez que le yud, on l'a élargi. Ça, c'est la barre d'en haut. La barre d'en haut, vous voyez, la barre d'en haut du hé, elle s'est allongée. Ça veut dire qu'on a pris l'idée, on l'a décortiqué. Omera, Amore, Omeramez, Alachavat, Abur, Vahavana. Comment on a expliqué? Ça représente le fait qu'on va essayer de décortiquer et d'essayer de comprendre. Quand on va prendre l'idée, on va la stretcher. Vegam le horaire. Mais contrairement au vav, qui lui, le vav, rappelez-vous, le vav, c'est seulement, il est seulement en longueur. Le hé, qu'est-ce qu'on a expliqué dans le hé? Le hé, lui, il a pris en longueur et en largeur. D'accord? Alors, en largeur, ça correspond à quoi la largeur? La largeur, ça correspond au fait que j'ai décortiqué l'idée, j'ai développé l'idée. D'accord? Je l'ai analysé. La longueur correspond à quoi? Ça veut dire qu'on te dit, tu vois, le yud, tout, avant il était en haut, maintenant on va le faire descendre. Ça veut dire quoi? Amore al prinat ha amshacha vehashpa mil mal al emata le al min stimi. C'est quand on va essayer de prendre l'idée, on va la décortiquer. Ça, on le voit vraiment dans un business plan. Quelqu'un, il a une idée. Il a une idée de génie. D'accord? Donc il va présenter son idée aux banques. Les banques vont dire, bon, nous, il nous faut un business plan. Comment on fait un business plan? Vous avez déjà fait un business plan? Comment on fait un business plan? Dans un business plan, il doit être complet, il doit être parfait. Ce que j'entends par complet, c'est-à-dire que d'abord, on doit expliquer son projet à long terme. Comment on pense que ça va se passer dans les 5 ou 10 années qui suivent. D'accord? À partir de quand on pense qu'on va commencer à gagner de l'argent. Bon. Mais à part ça, dans le business plan, on doit décrire en clair comment on compte s'y prendre. Ça, c'est un bon business plan. Parce que si je te dis, bon, moi, je compte dans 5 ans, je pense que ça va faire de l'argent. Où tu penses faire de l'argent? Comment tu penses que ça va faire? D'accord? Une stratégie. Mais il faut la mettre dans les détails. Dis, voilà, je compte m'y prendre comme ça. D'accord? Je vais aller voir un tel, on va ouvrir une boutique ici, on va faire ci, on va faire ça, tu dois rentrer dans les détails. Là, on a ici horaire et rochav. Rochav, la largeur, c'est quand je prends l'idée et je la développe. Je dis voilà, dans un an, il se passera ça, dans deux ans, il se passera ça, dans trois ans, il se passera ça. À telle période, je pense que je ferai de l'argent. Ça, c'est, j'ai élargi le concept. Ça veut dire quoi faire descendre le concept? C'est-à-dire quand je veux prendre le concept, je dis voilà, comment je compte m'y prendre? Je vais ouvrir une boutique ici, et je vais recruter au début 2 personnes, et après 3, et après 4. Ça, c'est, tu rentres déjà dans les détails. Tu rentres déjà dans la presse, tu fais descendre le projet. Ça, c'est horaire, la longueur. Je fais descendre le projet en bas. On est d'accord? Kipnimiyut, ensuite, dans les mots. Une fois qu'on a bien décortiqué la chose. Léalmin dit Galian. Là, alors c'est quoi le problème qu'on a avec ces deux premières étapes? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'instant c'est du vent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont préparé un business plan, mais comment on dit en français, un business plan ou un business plan? Business plan, d'accord. Comment on dit sur BFM, business plan ou business plan?
Business plan. Ça s'appelle un plan de marquage, non?
C'est chez BFM?
Un plan de marquage.
Ils disent un business plan, non?
Un business plan.
Bon. Le problème qu'il y a avec un business plan, c'est quoi? C'est que ça reste encore théorique. Même si t'as fait un super business plan, d'accord? T'as eu l'idée. Bon. D'accord? L'idée, tu l'as décortiquée dans les détails, t'es capable de dire qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer en tout? Ça veut dire, tout d'abord, dans l'idée, c'est-à-dire comment ton concept va se développer, et comment tu comptes le mettre en pratique. D'accord? Comment il va se développer et comment je compte le mettre en pratique. Les deux, la longueur et la largeur. Mais pour l'instant, je suis dans ce qu'on appelle Almin Stimin, les mondes cachés. C'est-à-dire quoi les mondes cachés? C'est-à-dire que pour l'instant, t'as rien fait. Pour l'instant, t'as rien dévoilé, t'as rien fait encore. C'est ça les mondes cachés. Les mondes cachés, ça veut dire quoi quand tu sentais les mondes cachés? C'est-à-dire que pour l'instant, il ne s'est rien passé encore. Pour l'instant, t'as pas ouvert boutique, t'as engagé personne, tu restes chez toi à la maison. T'as rien fait encore. Ça s'appelle les mondes cachés. À partir du VAV, là on va commencer à rentrer dans les mondes dévoilés. C'est-à-dire que tu vas commencer à extérioriser la chose. Tu vas commencer à avoir des sentiments, tu vas commencer à en parler autour de toi, tu vas commencer vraiment à extérioriser la chose. D'accord? Ça s'appelle Almi Deid Galian, les mondes dévoilés. Voilà. Ça, c'est déjà une deuxième étape. Pour passer à cette deuxième étape, il faut d'abord passer par une première étape dans laquelle tout doit être très très clair dans ma tête. Je dois savoir où je vais. Une fois que je sais où je vais, après je peux commencer à en parler, à développer, à essayer de décortiquer, Et bon, essayer de faire du recrutement. D'accord ? Ça, c'est déjà une deuxième étape.
Où on trouve le temps pour réfléchir à tout ça ?
Le temps, c'est toute la vie, le temps.
Le temps, c'est de l'argent.
Mais la vie, elle passe.
Son cerveau, il est capable de réfléchir à 10 choses en même temps. Regarde, je te prends un exemple.
Non, tout bloqué.
D'accord. Mais attends.
Je te donne un exemple.
Imagine-toi quand tu conduis. Tu conduis. En même temps, tu dois regarder les pistons qu'il y a autour. En même temps, tu dois réfléchir au fait que tu dois accélérer et freiner. En même temps, tu écoutes la radio. Attends deux secondes. Tu écoutes la radio. En même temps, tu téléphones, t'envoies un SMS. En même temps, tu vois une canette. Combien de choses j'avais ? Je viens de faire 5 choses.
Mais tu réfléchis pas quand tu vois une canette.
Mais bien sûr, tu réfléchis. Tu te rends pas compte.
Allez où là, t'as un problème ?
C'est pas la même chose.
C'est pour expliquer que le cerveau, il est capable de faire des tas de choses. Et tu regardes le GPS en même temps. Tu écoutes le GPS en même temps. Et tu entends derrière ton fils qui est en train de te dire quelque chose. Allez, tu en rajoutes encore? Et ton cerveau, il te rappelle, il dit, ah, il faut pas que j'oublie cette course pour ma femme. Ah, t'avais 10 choses, là.
Il n'y a plus d'essence. Je peux plus aller chercher quelque chose.
Non, mais...
Il y en a un, il m'a dit à Lyon, il m'a dit, on a tourné dans tous les sens pour chercher l'essence.
Et en tournant le coup, il le reste, il se dépend.
Je sais pas comment faire. Tu sais qu'il m'a dit, mon copain, il m'a dit, je suis sur l'autoroute, il y a au moins une trentaine de voitures qui sont en panne d'essence. Je dis, pourquoi t'as pas le prix des jerrycans comme ça, et tu mets 20 euros, et tu leur vends 150 ?
Mais ce matin ?
C'est vraiment ça, c'est pas une blague.
Mais il a pas dit, je me suis dit, il a pas dit ? Ah, d'accord. Maintenant, on peut plus partir comme ça, tu vois.
Il m'en reste un quart, moi, je crois.
Il faut déposer les... Alors, où on était ? D'accord.
On fait plusieurs choses en même temps.
Oui. Tu comprends ? C'est-à-dire que le cerveau est capable de faire plein de choses en même temps.
Mais là, on parle de réfléchir.
Mais oui ! Mais on réfléchit.
Alors, de quelles idées on parle ?
D'accord ? Bah justement, c'est d'analyser. Non. Là, pour l'instant, on veut, encore une fois, là, ce qu'on essaye de faire techniquement, on essaye de comprendre les rouages de la création du monde. Pour expliquer comment, dès le départ, le Ham Israël était créé différemment. D'accord ? Que toutes les autres créatures, même les Malachim. Les Malachim ont été créés en mode Elohim, c'est-à-dire c'est en mode superficiel. Nous, on a été créés en mode Yud-Kiyovke, c'est-à-dire qu'il y a un développement et ça suit une structure très très claire. Après, on expliquera comment on va retrouver cette même structure dans notre Neshama et comment les deux structures sont constamment communicantes. Avec ça, ça va nous aider à comprendre à quoi sert une mitzvah et pourquoi c'est pas bien quand on fait une Avera. Parce que là, on essaie de comprendre comment le monde a été créé et comment notre Neshama communique avec tout ça. Comment dans notre Neshama aussi, on va retrouver Yud-Kiyovke. Très important à comprendre tout ça, parce que sinon on comprend pas qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe quand on fait une avera. Là, pour l'instant, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé déjà à la création du monde. Quand Dieu a créé les Neshamot. En mode profond, comme on dit, pas en mode extérieur, pas en mode superficiel. Yud-Kei Vav-Kei. Ah, tu vois, Yud-Kei Vav-Kei, t'as une structure qui est très claire. J'ai pas fini encore. Il y a une structure. Une structure, ça veut dire que tout est clair, tout est ordonné, c'est pas la pagaille. C'est pas chacun vient et fait ce qu'il veut. Il y a une structure qui est très claire. On va développer encore.
Il n'y a pas
encore le Kibbat Ké,
c'est bien qu'après.
Oui. Alors
comment
c'est
comment Dieu a utilisé son
Instagram
pour...
Il a dit on va faire l'homme. C'est le Kim qui parle encore,
c'est
pas encore... C'est pas Yud Kibbat Ké,
c'est bien qu'après.
Non, le premier jour, c'est déjà écrit,
Hachem Elohim.
C'est déjà écrit. Le sixième jour, c'est écrit Hachem. Ouais. À propos de l'homme.
Bah, il fait
Attends, donne-moi s'il te plaît,
Il
va partir, monsieur le rabbin Edelman, le trait.
Le sixième jour.
Le l'idée, il n'a pas profondé.
Elle a eu de Doris.
Alors,
Doris. Il m'a dit, elle a déjà fait envoyer ses livres.
S'il vous plaît, pas d'aparté, parce que. La question est intéressante, tout le monde écoute la réponse.
Je suis pas au courant.
Je te vois et j'essaie de voir pourquoi Hacham t'a mis en face de moi.
Ah.
Et qu'est-ce que je peux apprendre de ça?
Non, c'est écrit Vayetzer Hacham Elohim et Adam à Farmina Adama, mais je mets le.
Ça fait deuxième fois.
Voilà, c'est là.
C'est non, mais c'est après, c'est pas le premier jour.
Non, c'est sûr. C'est écrit.
C'est après la création de l'homme.
Oui, mais c'est écrit à propos de. À propos de la... Non!
C'est pas le premier jour, ça.
Non. Mais non, c'est écrit. Vayitzer Hashem Elohim et Adam Afar Mina Adama. Traduction.
Oui. La poussière de la
matière. Après, Mashishi. Parce qu'après, quand Akadosh Baruch Hu, il fait le point, hein, et il raconte ce qui s'est passé. D'accord? Alors, là, c'est là qu'on commence à donner le terme Hashem. D'accord? Parce qu'après le Yamashishi, Dieu, il fait le point. Il dit, voilà ce qui s'est passé lorsque Hashem Elohim a fait la terre et le ciel. Après, il commence à développer. D'accord.
La question reste bonne. Comment ça se fait qu'on n'a pas utilisé le nom de Hachem pour la
question? Justement, parce que c'est après, ça c'est le. Pour l'instant, les deux. Là, pour l'instant, dans la première étape, d'accord, comme on a expliqué, même l'homme a été créé aussi en mode Elohim. Le corps de l'homme a été créé aussi en mode Elohim. C'est seulement après, par la suite, que Kadosh Baruch va insuffler dans l'homme et va développer chez l'homme la partie du Tkivavke. Mais chez l'homme, on a aussi Elohim. C'est ce qui explique le fait que l'homme a une carapace animale. L'homme est comme un animal. On est comme les animaux. Ça, c'est l'aspect Elohim. Mais en nous, on a l'aspect, c'est surtout ça. En nous, on a l'aspect Yud Kei Vav Kei. Ça, on voit après.
Le développement.
D'accord ? Ouais. Alors. Mais il sert un Shem Elohim, voilà.
Mais là, je suis qui plus développé.
Donc, on continue.
Un aspect plutôt galant, c'est ça que tu veux
dire ? D'accord ? On continue. Donc, rappelez-vous, on est en train d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à la création du monde. Comment, dès la conception, on est différent. Donc, on a eu le plan, donc on a eu la volonté, après on a eu l'idée, d'accord ?
Le plan.
C'est une image tout ça, c'est une image pour nous montrer qu'il y a une structure. Après on a eu le business plan, bon, très bien, bah, rare, et ensuite, donc, mais tout ça c'est encore Almin Stimin, c'est le monde caché. Ça veut dire quoi, c'est le monde caché ? Ça veut dire, comme on a expliqué, pour l'instant il s'est rien passé, il n'y a rien.
C'est au niveau de la pensée, ça se voit pas.
Au niveau de la pensée. Pour l'instant il n'a pas ouvert son affaire encore. Il a un projet dans son placard. Voilà. Il n'a rien fait encore.
Le développement de l'idée, c'est
tout ça qui est
fait.
Ah oui. Mais oui. D'accord. Mais tout ça, c'est encore... Ça, c'est le premier « et ». Ce n'est pas le « et » d'en bas. C'est le « et » d'en haut. La différence qu'il y a entre le « et » d'en haut et le « et » d'en bas, avec le deuxième « et », c'est que dans le deuxième « et », on va faire la même chose que le premier « et », mais sauf que là, on va passer en pratique. Dans le premier « et », on est resté tout été dans la tête. Dans le deuxième « et », on va faire la même chose, mais en concret.
Et le « vav », alors, il revient.
Attends. Le vav, c'est quand je vais m'attacher,
d'accord,
voilà, à l'idée.
Pourquoi la même lettre qui peut pas dire la même chose?
Parce que le c'est une bonne question, on va expliquer après. Le concept du hé, c'est le concept du développement. Donc t'as le développement dans la tête, et après t'as le développement dans le concret. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Non, il a compris.
Il comprend vite.
Vacharkar, et après, vous avez Vacharkar, quel lignonné. C'est
rare.
Vacharkar. Alors, c'est en Rashi Tavot. Vacharkar chez Nimshechet.
La
ligne qui commence, Milmaala.
C'est
la 12e ligne.
Quelle
ombre.
Quelle
ombre. C'est la 12-13. Ouais. Alors. Vacharkar.
C'est en Chéli.
C'est comme ça. C'est moi, c'est les... Non, c'est comme ça, même dans la Gemara, c'est comme ça, il y a beaucoup d'abréviations.
Je suis
parti.
Là, moi,
il n'y
avait pas beaucoup de temps.
Sur 3
par ligne,
4,
dans la Gemara, il
n'y
en a pas autant.
Donc, dès qu'on va vouloir faire descendre ce business plan plus bas, les Almin dit Galien, le monde dévoilé, c'est-à-dire quoi le monde dévoilé, rappelez-vous? C'est-à-dire que maintenant, l'idée, elle a déjà pris forme. D'accord? Elle est déjà très claire dans ma tête, je sais déjà comment je vais m'y prendre, mais c'est encore dans ma tête. Après, maintenant, je vais essayer de la passer en concret. Donc, Mora Adam, Sherotse, Legalot, Rochmato, Lachrim, Elede, Diboura, Derech, Machal. Comme un homme qui a envie de dévoiler ce qu'il a réfléchi aux autres, par le biais de sa parole. Vous voyez? Ça, c'est déjà, là, c'est-à-dire que là, maintenant, il a réfléchi à quelque chose, tout est très clair, il a tout compris. Maintenant, après, il a envie de le transmettre. Et pour le transmettre, il faut d'abord le vivre. Il faut d'abord le ressentir.
Mais pourquoi on dit on vole l'idée?
Deux secondes, excuse-moi, on va finir cette notion d'abord. D'accord?
Tu voles l'idée.
Excuse-moi.
La question de trop.
Deux secondes. Non, c'est certainement ma question, mais deux secondes, on finit ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Rien n'est hors sujet. Ça veut dire quoi? Quelle heure il est là?
Mais bon.
Ah d'accord, j'ai cru que c'était pas mal. D'accord. Donc, la personne a une idée. D'accord? Il a réfléchi à quelque chose. Il a bien réfléchi, tout est clair dans sa tête. Ensuite, il a décidé de la transmettre. Mais pour la transmettre, vous savez bien que pour transmettre quelque chose, il faut le vivre, il faut le ressentir. Parce que quand on transmet quelque chose et qu'on ne le vit pas,
exactement.
Ça marche pas. On perd son temps. Quand même. Ça, on peut voir avec les enfants. Quand on leur dit parce qu'on doit leur dire, ça marche pas. C'est comme si l'enfant va comprendre le contraire de ce que tu lui as dit.
Voilà.
D'accord? Parce que l'enfant, en subconscient, il comprend mieux qu'en conscient.
Il comprend mieux
ce qu'on fait que ce qu'on dit. Donc c'est pour ça on t'a dit écoute, tu veux le passer en mode tu veux passer de Almin Gluin, c'est-à-dire tu veux t'as un projet dans ta tête, tu veux que ça passe, tu veux le transmettre, il faut le vivre d'abord. C'est quoi le vivre? Ça c'est le Vav. Le Vav c'est quand on va le faire descendre dans les Midot. On va expliquer pourquoi tout de suite. Pourquoi la lettre Vav. Donc à l'aide d'Ibura Derech Machal, Nirmazi, Nirlelet Venirmezet, Amshachao, Botiot, Vavke. Mais vous voyez que Vavke, c'est déjà une deuxième phase. C'est-à-dire que si on devrait découper en deux phases, on a la première phase, c'est Yudke, ça veut dire l'idée et le développement de l'idée, mais dans la tête, c'est encore fictif. Après, Vavke, c'est déjà la mise en pratique. C'est deux phases. En langage de la Kabbalah, les mondes dévoilés, les mondes cachés. Les mondes cachés, les mondes dévoilés, pardon.
Le Vav, comment est-ce qu'on peut...
Alors, pourquoi le Vav? On va expliquer tout de suite. D'accord? Pourquoi le Vav? Qui a Vav? Alors, d'abord, David, t'avais une question. Voler les idées. Oui.
Bah, ça existe tous les jours, par exemple, l'autre, là, Bill Gates, il a volé l'idée de quelqu'un.
Mais oui. Est-ce qu'il avait déjà la pensée
projet,
ou...
Il a volé le projet. Il
développe son idée, s'il te plaît.
Il a volé le projet.
Il avait pas la...
Donc s'il a volé une idée, ça veut dire qu'il a volé, le Yud et il a fait du Yud de quelqu'un d'autre un Ré.
Non, il a volé au niveau du business plan déjà.
Il a volé le projet.
Non. Ah non.
Non, le mec il a dit par exemple, là, j'ai entendu ce matin...
Non, il a volé une idée et il l'a développée.
Il veut faire une piscine cachère. J'ai entendu ce matin un Rav, un grand Rav, il veut faire une piscine cachère, c'est vrai. C'est un problème pour les bachours de d'aller à la piscine.
Oui, c'est sûr.
Et il n'y a pas de piscine en Île-de-France.
Pas la piscine, hein.
Mais imagine quelqu'un, il a entendu ça, il va lui voler son idée. Et alors que ça s'était jamais fait.
Il n'y a pas la piscine à cette idée là. Il n'y a pas d'oseille à faire.
Mais dis, tu vas être complice, tu voles son idée, tu viens de répondre.
Non, mais c'est vrai.
Non, il a raison. Voler une idée, c'est-à-dire voler le Yud.
Voilà le Yud, il vole.
Parce que ce qu'on explique, c'est que
il est dans sa tête.
Qu'est-ce qui se passe quand on a une idée? T'en as dit la semaine dernière.
Il a dit dans.
Non, il a pas volé le Yud, il a volé le Yud.
Il a volé le Yud de quelqu'un.
Bon. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un a une idée? Lorsque quelqu'un a une idée, ça veut dire qu'il a réussi à trouver quelque chose de sa neshama. Il a réussi à dévoiler sa neshama. Vous savez, quand on a une idée, on sent comme un flash dans la tête. On sent que, mais d'ailleurs, on voit même un éclat dans les yeux de quelqu'un qui a une idée. Parce que sa neshama qui est en plein éveil. D'accord? On est d'accord?
Ouais.
Ça c'est le Yud. Ça veut dire quelqu'un a eu un éclat. Toi tu as volé son éclat.
Mais c'est du vol, d'accord, ou pas?
Bien sûr c'est du vol. D'accord. C'est quoi alors?
T'arriveras pas au Bav.
C'est pas mal la piscine cachère.
Non mais elle est pas exprimée. Le Yud est pas
exprimé.
C'est
hein.
Tu m'imagines tous les hommes qui volent à la piscine.
J'ai pas compris.
Le Yud est pas exprimé.
C'est sûr que c'est exprimé. Religieux graves qui vont
à la piscine. Si quelqu'un a parlé à la radio,
ça m'a exprimé l'idée. Des fois, tu es au niveau, tu le sais, mais tu sais même pas que tu le sais.
Il y a des gens, moi je connais des gens, ils ont des tas d'idées.
Ouais, mais ils ont pas
ils ont des tas d'idées. Tous les jours, ils se sortent des tas d'idées. Mais ils les oublient. C'est-à-dire qu'ils ont que des youds. Ils ont quelqu'un qui a beaucoup d'idées, ça veut dire c'est pas un signe d'intelligence, c'est un signe de dévoilement de la neshama. Non mais c'est pas des blagues. Quelqu'un qui a beaucoup d'idées, c'est un signe d'un grand dévoilement de la neshama. Bien sûr. Quelqu'un qui a beaucoup d'idées, c'est quelqu'un que son neshama est vraiment en plein éveil. Il a plein d'idées, il voit des idées. Chaque fois qu'on a une idée, c'est un éveil de la neshama. Mais il y a des gens qui, oui, des bonnes et des mauvaises, hein. Attention. Et le Yitzhara aussi.
Mais alors, et les mauvaises, c'est le neshama.
C'est le Yitzhara. Lui aussi, il a son yud.
Quelqu'un qui arrive pas jusqu'au et d'en bas, il a fait le Yud, il a fait le Yud, mais il n'arrive pas...
Mais c'est une histoire d'une vie.
Chez David.
Une vie.
Ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en deux jours, ça se fait en une vie.
Toi, tu arrives au Yud, ça fait ton état d'esprit.
Alors, on était au Vav. C'est quoi le Vav? Qui a posé la question? Qui a posé la question? Pourquoi le Vav?
Il n'y a plus de pizza.
Qui a posé la question? Quel rapport?
Ça, c'est juste le flash.
Moi, j'avais une idée pour lui, c'était de développer la partie 7 heures.
Quel rapport, allez messieurs, quel rapport entre le Vav, et les sentiments? Quel rapport entre le, allez messieurs, on revient. Quel rapport entre le Vav et les sentiments? D'accord, c'est pas toi? Quel rapport entre le Vav et les sentiments? Tu m'as dit le Vav, c'est quel rapport? Alors, il explique, lui, c'est très simple. Il y a deux choses. Tout d'abord, graphiquement, le Vav représente le fait que je prends un point, je prends un yud et je le fais descendre. Le hé, on a dit représenter les deux. Parce que dans le business plan, il faut en même temps, il doit avoir deux paliers dans le business. D'abord, je dois le développer dans les détails, et à part ça, je dois le développer dans la mise en pratique. On est d'accord? On a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est la première phase. Première phase du développement. D'accord. Deuxième phase, le Vav, c'est quoi le Vav? Le Vav, c'est quand je prends la notion et je vais essayer de la faire descendre. Voilà, donc pour la mettre en application, il faut que je la sente. Il faut que je le sente. Faut que je l'intègre. D'accord? Donc deux raisons. Quel rapport entre le Vav et les Midot? Premièrement, parce que le Vav, graphiquement, c'est un synonyme de descente. D'accord? On sait qu'un sentiment, c'est beaucoup plus bas que la réflexion. Quelque chose qui est beaucoup plus bas chez l'homme. Donc, le sentiment, on va le faire descendre du cerveau vers les sentiments. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Vav, en hébreu, c'est la valeur numérique de 6. 6, ça correspond à quoi?
Midot.
Ça correspond aux 6 midot. Quelles 6 midot? On les dit dans le Vayevare David. On va les dire tout de suite. D'accord? On va lire ensemble. Il avait le tabou. Non, par contre, c'est un rapport qui est très clair avec les tefilines de la tête et les tefilines du bras, ça c'est clair. C'est un rapport, c'est pour nous montrer que c'est toujours la tête qui doit dominer les sentiments. C'est écrit en Shulchan Aruch. D'ailleurs, on doit avoir cette kavana quand on met les tefilines. Sinon, c'est bédiavad. Au moment où on met les tefilines, on doit avoir la kavana que de la même manière qu'on met les tefilines du bras et les tefilines de la tête, ça veut dire qu'on doit soumettre, son cœur et son cerveau à Kadosh Baruch Hu.
Pourquoi si on a que ceux du bras, on met que ceux du bras?
Pourquoi on a, si on a?
Si on a que ceux du bras, on met que ceux du bras.
Le contraire, si on a que ceux de la tête, on met ceux de la tête.
Et si on a que ceux du bras, on met pas.
Non, normalement,
c'est pour ça qu'on cache la tête. Okay. On fait du cavote pour la tête.
Qui a pas de
le plus important, c'est celui de la tête.
Mais c'est pas vrai, il peut mettre que la tête.
Ça, comme tu mets le bras en premier, tu couvres la tête.
On lui pose.
Pas de bras, pas de
pied. Il peut pas vivre s'il a pas de tête.
Alors, deux points pour le vav. Quel rapport entre le vav et les midotes? À la mission, on y va. Qui a vav, moré.
Je sais pas, il a pas
exhalé. Qui a vav moré à la mshacha mil mal à l'emata. Deux points. Quel rapport entre le vav et les midot? Premièrement, c'est parce que le vav, graphiquement, représente la descente. On prend un yud, on le fait descendre. Donc ça veut dire quoi? Il représente le fait que on va prendre une notion, on va la faire descendre dans les sentiments, hein, comme ce que dit Yonel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vegam. Amshachazo, il y a l'idée midat chazdo vetuvo ou sham d'état avec deux choses. La lettre vav, vav en hébreu, c'est 6. 6, ça correspond à quoi? Anichalot bederakal be mispar shesh, shemepasuk lecha hashem agdula. Dans le Vaïvarer David, où on se lève là, quand on, juste après les Alléluia, c'est ce qu'on dit là-bas. On dit lecha hashem, à toi Dieu appartienne. Agdula, la grandeur. Gedula, ça correspond à chesed, la bonté. Veagvura. Vura, c'est la rigueur. Veatif eret, c'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est l'harmonie entre les deux. Ouais. D'accord? Vehanetzar. Netzar, c'est quoi? C'est l'envie de vaincre. Ça vous, réfléchissez bien, tous ces éléments-là, on les retrouve dans un projet. L'envie de vaincre. Vehahod, l'humilité. Quand on fait un projet aussi, il faut une certaine humilité. D'accord? Tichol, vashamaim ou vaharet. Dans le mot kol, c'est quoi kol? Kol, c'est expliqué en Kabbalah. Kol, ça veut dire tout. Kol, c'est l'équivalent de yesod. Yesod en hébreu, ça veut dire quoi? C'est le fondement. Ça veut dire que dans le col, c'est le fondement, ça correspond à la communication. Et vous remarquez que quand on a si on veut qu'un projet marche, on doit passer forcément par ces 6 domaines-là. Alors des fois, c'est un qui est un peu plus que l'autre, d'accord? On doit passer par un peu de bonté, un peu de rigueur, un peu d'harmonie, un peu d'envie de gagner, envie d'avancer, un peu d'humilité et de la communication. Très important de passer par ces 6 éléments-là. Combien je viens d'en compter? 6. 6 est égal à vav. Donc voilà le rapport entre Vav et les Midot. Ad lecha Hashem amlacha velo ad bichla. Ki midat malchuto yitbarer, nikra ad beshem dvar Hashem. Et enfin, après on arrive au dernier hé. C'est quoi le dernier hé? Le dernier hé, c'est la parole de Dieu. Alors c'est quoi la parole? Que Moshe Katou va asher dvar meler shilton. C'est quoi la parole? D'accord? Chesed, Gvura, lecha Hashem, Agdula, vea Gvura, vea Tiferet, vea Netzar, vea Od. Et ensuite, Kichol Bashamay ou Va'aret. Bah oui, c'est une seule phrase, ça. Kichol Bashamay ou Va'aret, c'est un seul élément. Kichol Bashamay ou Va'aret, donc là, le mot Kol. Kol, c'est égal à Yesod. C'est la base. Alors, après le Vav, qu'est-ce qu'on a? On a Yud, Ke, Vav. Donc là, on est déjà dans la deuxième phase. Vav, c'est quand on va essayer de faire descendre tout ça. Faire descendre tout ça, et essayer d'en parler, essayer d'en communiquer, essayer de travailler son humilité. Ça, on va déjà faire descendre tout ça. Ça, c'est déjà deuxième phase. Vav. Et après, on a le hé. C'est quoi le hé? Le hé, c'est la parole. Pourquoi la parole? Quel rapport entre la parole? Pourquoi on parle de parole ici? Quel rapport entre parole? Il dit parce que la parole, c'est synonyme de, quand on dit, quand on parle de quelque chose, c'est déjà un synonyme qu'on a extériorisé la chose. Oui. D'accord? Venir chlélet, venir mezet, veot hé acharona, shelchem avayé. Il va expliquer comment on voit ça. Il dit que le hé, le dernier hé, représente, ça c'est la question que tu as posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a posé? Comment ça se fait que les deux hé, un représente celui d'un seul qui a posé? Alors, donc ça représente le dernier hé. Pourquoi? Il explique, il dit, c'est très simple. Regardez bien comment il explique. D'abord, on a un premier point. Ça, c'est un point très important à comprendre. C'est écrit que En Meler Veloham. Que on ne peut pas avoir de roi sans peuple. C'est-à-dire que même si vous avez un roi qui a toutes les qualités qu'on peut imaginer, s'il n'y a pas de peuple qui le suit, il n'est pas roi. C'est-à-dire qu'on ne peut être roi que sur un peuple. C'est la même chose. Ça veut dire que quand tu as un plan, tu peux avoir un business plan extraordinaire. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, tu as décortiqué ton plan, tu le sens, tu le vis. Ça, c'est déjà le VAV. Mais s'il n'y a pas un peuple, s'il n'y a pas des clients, il n'y a rien. D'accord? S'il n'y a pas de clients, t'as un super plan. Mais si le marché n'est pas prêt...
On en revient...
T'as un super plan, mais il n'y a pas de hé. Il n'y a pas le dernier hé.
On a toute une vie, bien dit.
Alors, pour quel rapport avec le hé? Le hé, c'est l'extension, c'est le développement.
Ouais, mais là, tu parles de...
Bah si.
C'est extérieur à la...
Oui.
Parce quand tu parles du peuple.
Encore une fois, le hé, c'est quand je vais me passer à la pratique. Quand je vais passer à la pratique, je vais décortiquer mon projet. Mais je vais plus le décortiquer dans ma tête, ça c'était le premier hé. C'est quand je vais le décortiquer dans la pratique, c'est-à-dire que je vais commencer mon projet. Effectivement. Alors il va expliquer, ce qui a rapport avec le hé. C'est très simple. Comme on a expliqué. Tu peux pas être roi s'il n'y a pas de peuple. C'est-à-dire, avec tout le projet que tu as eu, s'il n'y a pas des clients, eh ben, il manque le dernier hé. Bon, alors. Donc ça c'est le dernier hé. Ça c'est le dernier. Alors écoutez bien, maintenant, on va lire ensemble, j'ai deux éléments à expliquer. Pourquoi le dernier hé correspond à la parole? Quel rapport avec la parole? Deux points, il va expliquer. Kipnimiyu tu mekor adibo ua hevel aole min alev, ou mitralek le hemotsaotape, alef er, alef ret he ain, me agarob. Deux points. Tout d'abord, ce qu'on voit ici, c'est que, quand on parle, d'accord, comment ça se passe quand on parle? Qu'est-ce qui se passe techniquement quand je parle? Ce qui se passe techniquement quand je parle, c'est que mon corps envoie un souffle. Et c'est un souffle après qui va être utilisé par un des cinq modes d'expression de la bouche, d'accord? Donc ils sont aleph, donc qui sont donc les lettres. Alors il y a ce qui vient du nez, d'accord? Il y a les lettres qui viennent du nez.
Non, non.
Attends, il y a ce qui vient de la gorge.
La gorge.
D'accord?
La
lettre gutturale, il y a la langue.
Il y a les lèvres.
Il y a les lèvres, il y a le palais.
Il y a le palais.
Oui.
Et il y a les dents.
Et il y a les dents.
Ouais.
Bon.
Et quelles sont les lettres qui viennent des dents?
Par exemple, bête. Allez. Bête, qu'est-ce qu'on a utilisé? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour dire en bête?
Bête, c'est l'élève.
Bête.
Bête.
Allez, essayez d'analyser votre mot. Bête.
L'élève.
L'élève. D'accord. Lamed.
Je lis si tu veux le détail.
La langue, vous voyez?
J'ai les détails si tu veux.
Des lettres?
Ouais. En l'occurrence, les lettres.
Aleph et Chet. Aleph, Chet et Aïn, c'est de la gorge.
Aïn, c'est de la gorge.
Oui. Aleph.
Le bête, le vav et le mem et le p. C'est les lèvres.
Les lèvres, oui.
Le zaïn, le samer, le tzadik, le rech.
Les dents.
Et le chine, c'est les dents.
Ouais.
Le zalet, le tet, le amel, le noun et le tab, naissent de la langue.
Ah ouais, c'est du...
Chine. Le pardon? Rech. Rech, c'est le palais, rech, non? C'est ça?
Zaïn.
Chine, c'est normal, c'est les dents.
Rech, c'est les dents? Rech.
Et chine.
Rech, c'est quoi?
Les dents.
Rech, rech,
ouais, c'est les dents, ça fait un souffle sur les dents.
Ah oui, ouais, ça fait un souffle.
Chine, parce que ça passe par les dents. Chine.
Rech, rech,
chine.
Ah, ouais, ça fait un souffle sur les dents, ouais.
Chine.
Ouais, mais il y a gorge et dents là dans le rech.
Oui, gorge et dents. Oui, mais c'est pour le principal. Bon.
Rech.
Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord.
Rech.
Rech. C'est rech.
Enlève ta langue.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc quand j'ai parlé?
Attends. Donc exprimer un sentiment.
Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai parlé? Ce qui s'est passé, c'est que mon corps a envoyé un souffle, mais qui a été répercuté par un de ces cinq canaux.
Ouais.
D'accord? Qui a été répercuté par un de ces cinq canaux. C'est bon?
Oui.
Un souffle qui a été répercuté par un de ces cinq canaux.
Oui.
Et du coup. Ça a donné des lettres différentes. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qu'on voit, d'accord? Un deuxième point qu'on voit, c'est quoi? C'est que la lettre H, de toutes les lettres, la lettre H, il faut bien écouter ce que je veux dire. Allez, messieurs, quelques minutes, attention encore. De toutes les lettres, la lettre H est la lettre qui a le moins de substance. Quand on s'exprime. H. H, finalement, c'est un souffle qui a très peu d'expression. D'accord?
Plus que le H.
Ah non, le Aleph, il a déjà, le Aleph, il a déjà deux syllabes, Aleph. Bah oui, quand je prononce la lettre. Hé, hey, c'est un souffle, c'est un souffle qui est très très peu d'expression. D'accord? Bon.
Il kiffe ce
fou. D'ailleurs, bah, je crois que les enfants, c'est un des premiers sons qui sortent. C'est le E, non? A, E. Non, c'est les premiers sons qui sortent, parce que c'est les sons qui n'ont pas besoin de se fatiguer pour le faire. Bon. Alors. Et alors? Alors, pour prendre le truc de ça. Avec ça, hein.
Mais les chiens, ils font
le Aleph aussi. Non, mais il y a une seule syllabe.
Oui, les enfants, ils rêvent, ils disent Aleph.
Ah, pourquoi on explique tout ça? Pour expliquer quel rapport entre le dernier hé, quel rapport entre le dernier hé et la parole. Ouais. D'accord? Alors, on a expliqué trois points. Premier point qu'on a expliqué, c'est que la parole, c'est synonyme d'expression.
Oui.
Quand j'en parle, c'est-à-dire déjà que je l'exprime. Donc l'expression, c'est-à-dire je prends mon projet et je commence déjà à le mettre en pratique. C'est un premier point. Deuxième point, on a expliqué quel rapport physiquement entre le hé et la parole. C'est que hé est égal valeur numérique de 5 et la parole, d'accord, va utiliser également 5 canaux pour s'exprimer. On a ces 5 canaux qu'on a dit, donc le palais, etc.
Bon.
Ça, c'est un premier point.
Langue, gorge.
La langue, le palais, la gorge,
les dents
et les lèvres. D'accord ? Donc, il y a 5 canaux. 5 canaux, donc on revient à la lettre H. C'est un deuxième point.
Oui.
Troisième point qu'on a expliqué, c'est que la lettre, quel rapport entre la lettre H et la parole ? Le rapport entre la lettre H et la parole, c'est que dans la lettre H, c'est la lettre qui a le moins de substance. C'est pour dire que finalement, quand on dit la lettre H, c'est la lettre qui nous fatigue le moins. Parce que c'est une lettre qui n'a pas de substance. C'est pour expliquer, pour illustrer ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que quand on parle, ça fatigue pas une personne. Quand on parle, on peut parler des heures et des heures, pourtant il y a tout ce qui sort, ça fatigue pas. D'accord ? Donc ça, le hé, ça correspond à quoi ? Ça correspond à la parole, ça correspond à la mise en pratique. Donc on a fait le tour du projet. Yud, ke, va, ke.
C'est plus facile. Quoi.
D'accord ? Ah non, c'est plus facile et plus dur, quand on réfléchit.
C'est ce qui fatigue tout le monde.
Parce que, on verra après, on expliquera après que dans la neshama d'un homme, yud, ke, vav, ke, le hé correspond à la mitzvot pratique, dans les mitzvot concrètes. On expliquera que c'est plus dur. C'est comme dans un business plan, tu peux avoir un super plan, mais le hé, c'est les clients. Le dernier, c'est les clients. Ça peut être le plus dur. Tu peux avoir un super plan béton armé, etc., mais t'as pas de clients. Les gens, le public ne répond pas, ils veulent pas.
Une belle affaire.
Qu'est-ce que tu fais? D'accord? Ah, il faut susciter le désir. Justement. C'est ça qu'on dit, il n'y a pas de roi sans peuple.
Voilà,
et on dit que quand... Alors, quand il n'y a pas de roi sans peuple, on dit quand le roi il a envie de régner, qu'est-ce qu'il faut qu'il agisse? Il y a deux choses. Soit le roi, mais ça en général ça marche pas, soit le roi va réussir à donner envie, à se faire envier par le peuple, d'accord? Bon, c'est un premier élément. Mais sinon il doit attendre que le peuple ait envie d'avoir un roi. C'est pour ça qu'on voit, écoutez bien ce que je veux dire, que le Ham Israël, tant que le Ham Israël n'a pas demandé de roi, Akadosh Baruch Hu n'a pas donné de roi à Israël. Jusqu'à Shaoul, le peuple, à Israël n'a jamais demandé de roi. Il n'a pas demandé de roi. Donc Moshe Rabbeinu n'était pas un roi. Il n'y a pas de roi parce que le peuple n'a pas demandé. Dès que le peuple a demandé un roi, c'est là que Dieu a envoyé un roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, même si on a une super idée, si le marché ne demande pas l'idée, peut-être on peut essayer de susciter l'envie. Mais si le marché ne demande pas l'idée, d'accord, c'est très difficile.
Mais ça n'a pas été les trois premières étapes.
Mais c'est ça le problème.
La quatrième ne marche pas.
Non.
Alors.
Parce qu'encore une fois, comme
au départ, c'est peut-être l'instinct qui a parlé.
Le problème qu'on a encore une fois, c'est que dans les trois premières étapes, finalement, les deux premières étapes, c'était constamment dans ma tête. La troisième étape, c'est quand j'ai essayé d'en parler, de communiquer, etc. Mais tant qu'il n'y a pas la demande du public, le hé, je perds mon temps.
Les cinq lettres.
Trois points, j'ai dit. Premièrement, j'ai dit le rapport qu'il y a avec le hé, d'accord? Quel rapport entre la parole et la mise en pratique? C'est que quand je parle de quelque chose, c'est comme ça que je commence à le mettre en pratique, et que, comme on a expliqué, le roi, pour régner, il faut qu'il règne sur quelqu'un d'autre. Donc, quand je commence à en parler, c'est-à-dire que je commence à parler à un client, je commence à parler à quelqu'un d'externe. Donc, ça y est, mon projet a démarré. Tant que c'est dans ma tête, d'accord, je suis encore à peu près dans la phase A. Mmh. Et dès que je commence à en parler à quelqu'un, je suis déjà passé dans la phase B, mais parce que j'en parle.
Mais parler de son idée, généralement, c'est pas très...
Non, mais s'il parle à sa banquière...
Pas de son idée. On...
Justement, quand je commence à en parler, mon idée est déjà verrouillée. C'est-à-dire, j'ai déjà verrouillé, je sais ce que je fais. Et là, j'en parle. Ah.
Il faut la déposer.
D'accord. Oui, j'ai déposé, tout est clair. Non, ça veut dire que tout est clair. Quand je commence à en parler, c'est que je suis déjà en train de la mettre en pratique. Ça y est, j'ai déjà lancé l'idée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'on a expliqué, c'est que quel rapport entre le hé et la parole, c'est que hé est égal à 5, Donc c'est les cinq modes d'expression. Troisième point qu'on a expliqué, c'est que he, c'est la lettre qui a le moins de substance, d'accord ? Et ça symbolise le fait que quand on parle, finalement, ça nous fatigue pas. Pourtant, on souffle. C'est ce qu'on a expliqué ici. Vegam avarata he dans les mots, iprinat evel levad. La prononciation du he, c'est juste un souffle. Il n'y a pas de substance. Comme c'est écrit, ataklila de lettre b mamacha. Le he, c'est une lettre qui est légère, qui n'a pas de substance. D'accord? C'est écrit dans, il y a un chant que les Ashkenazim chantent, dans la veille de le jour de Shavuot, Akdamut, juste avant, donc c'est juste avant de monter à la Torah. Juste avant de lire les 10 commandements, il y a un piyouk qui s'appelle le Hagdamut. Dans ce piyouk qui s'appelle le Hagdamut, on parle de toutes les lettres. Quand il y a une rime par lettre. Et pour la lettre He, on dit Ataklila de lettre Bemamacha. La lettre He est représentée comme une lettre légère qui n'a pas de substance. On le voit quand on dit He, c'est c'est un signe, ça n'a pas de substance. Donc ça correspond à la parole. Quelle heure il est ? Bon, on va s'arrêter. Je finis encore de lire. Bien que, alors attention, là, tout ça, c'est le rouage, rappelez-vous, de la création du monde. Mais bien sûr que Kadosh Baruch Hu n'a pas de forme du corps. Et c'est clair que toutes ces étapes ne se sont pas passées comme ça chez Kadosh Baruch Hu. Mais c'est des images. Art dibra Torah, kelshom ne'adam. La Torah a parlé dans le langage des hommes, c'est très important à comprendre, mais on va développer la semaine prochaine. Lorsqu'on dit que Kadosh Baruch Hu a parlé, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. En clair, il s'est passé quoi ? Dieu a parlé, il a parlé, Dieu a la parole. Bien sûr que non, Dieu n'a pas parlé. La parole, d'accord, ça correspond à des combinaisons de lettres. On est d'accord ? La parole, c'est des combinaisons de lettres. On a 22 lettres dans l'alphabet. Et avec ces 22 lettres, on fait les combinaisons qu'on veut. Très bien. À quoi ça correspond ? À quoi correspond la parole ? La parole correspond à des combinaisons. À Kadosh Baruch Hu a 22 canaux quand il a créé le monde. Il y a 22 canaux qui correspondent au Chavet Otiot. On expliquera longuement dans Sharikhout Vemouna, la troisième section. Et il y a 22 canaux, et avec ces 22 canaux, tu fais autant de combinaisons que tu veux. D'accord ? Alors, quand je dis autant de combinaisons que tu veux, je crois qu'il y a à peu près une centaine de manières de faire des combinaisons. Il y a plusieurs manières de faire des guimétries. Il y a les guimétries qu'on connaît. D'accord ? Bon, il y a des...
Tu peux pas compter comme ça, c'est quoi le mot que tu veux ?
Il y a plusieurs manières, d'accord ? T'as des combinaisons qui s'appellent Gimatria, d'accord ? Oui. T'as des combinaisons qui s'appellent Adva, c'est-à-dire que tu dis que Aleph est égal à Tav. Il y a beaucoup de combinaisons qui existent. Ils sont expliquées dans Sefer Yetzira. Dans Sefer Yetzira, c'est expliqué.
Et dans Sefer Yemuna aussi.
Alors, dans Sefer Yemuna aussi. Donc finalement, quand on a expliqué tout ça, que le roi il commence à parler, la parole, etc., on te dit, bien sûr que ça se passe pas comme ça chez Kadosh Baruch Hu. Mais c'est une image pour expliquer quoi ? Pour expliquer que toutes les autres créatures ont été créées comment ? Ont été créées uniquement par, toutes les autres créatures, on retrouve uniquement le dernier aspect de Yud Kei Vav Kei, le dernier He. C'est-à-dire uniquement l'aspect parole. Comment on va prendre un élément, et on va la parole, ça veut dire qu'on va prendre cet élément-là, et on va essayer de former des combinaisons. Donc combinaisons, des lettres différentes. Bon. Nous, le Ham Israël, ce qu'on a de particulier, c'est que nous, on va avoir les trois premières lettres. Le Yud, le He et le Vav. Ça, on va expliquer la semaine prochaine. D'accord ? Je vais résumer juste en deux mots ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est bien arrêté sur Yud, Kei, Vav, Kei. D'accord ? On a bien couvert Yud, Kei, Vav, Kei. On a expliqué que Yud, Kei, Vav, Kei, on couvre un projet avec Yud, Kei, Vav, Kei. Yud, le Yud. La pointe du Yud, on avait dit, c'était quoi ? C'était la volonté. Le Yud en soi, c'est l'idée. Le He, en largeur, c'est quoi ? Le développement de l'idée. En longueur, c'est quand je prends le business plan la liste de courses, voilà, d'accord. Ça c'est la première phase. C'est dans ma tête tout ça. Ensuite, deuxième phase, le Vav. Quand le Vav, d'accord, c'est quand je commence à sentir la chose. Donc automatiquement, je commence à extérioriser. Ouais. Je commence à communiquer, je commence à développer des sentiments par rapport à ça. Automatiquement, je commence déjà à extérioriser.
Ouais.
Très bien. Le Hé, c'est quand déjà, tellement j'ai extériorisé que j'en parle. Au moment où j'en parle, j'ai déjà lancé le projet. Seconde. Alors j'ai déjà lancé le projet. Trois points, on a expliqué. Premier point, on a expliqué que quand je lance le projet, ça veut dire que il y a déjà des clients. D'accord ? Dans le Vav, l'étape du Vav, c'est là que je crée des clients. L'étape du Vav, c'est là que je vais commencer à communiquer, par exemple. Dans la lettre Vav, rappelez-vous. C'est quoi le Yesod ?
Je suis juste en bas.
Yesod. Yesod. On a dit, on a dit que dans les six sphirotes, d'accord, on avait la bonté, la rigueur, etc. La dernière, c'était quoi? La sixième, c'était la communication. Ça, c'est avant même que j'en parle. Avant même que je présente le produit au client, il faut d'abord faire de la communication. Communication, ça veut dire que le client, quand il vient, il sait déjà de quoi tu parles. Il a envie de ton projet. C'est du marketing. Ça, c'est Yesod. D'accord? Il faut tous ces éléments-là. Ça, c'est les éléments qui sont avant que tu viennes au client et que tu lui proposes ton produit. Et tous ces éléments qu'on a dit. C'est-à-dire, tu vas avoir un peu de bonté, un peu de rigueur. D'accord? Tout ça. L'harmonie entre les deux. Hein, tu vas jouer dans les techniques de marketing. Soit tu vas la jouer sûre de toi, ou soit tu vas la jouer, je suis à votre service, ou soit tu vas faire un peu des deux. Après, il faut que tu aies une envie de vaincre. Tu lui montres que tu as envie d'aller vers l'avant, mais il faut que tu aies un peu d'humilité. Et pour tout ça. Mais ça, là, on est déjà dans la phase B. Dans la deuxième phase, quand le projet a déjà été lancé. Le projet est déjà lancé à ce moment-là. Où on voit que le projet a vraiment été lancé, c'est quand on arrive au dernier hé. Ah, le dernier hé, c'est quand tu prends le projet, tu en parles. C'est-à-dire que là, maintenant, tu présentes le produit au client. C'est là qu'on voit est-ce que ça passe ou ça casse.
Je peux me permettre. Le Midrash, il n'a pas donné tout cet exemple-là.
Il a parlé d'une
maison. C'est ça que tu dis.
Oui. Est-ce que j'explique?
Quel rapport avec le business plan?
C'est que c'est la même chose.
Dans une maison, on n'a rien à vendre, on a tout acheté.
Oui, mais c'est la même chose. C'est que ce qu'on explique, c'est que c'est exactement la même chose. C'est que
on n'a rien à vendre du coup. On a juste des chambres à remplir.
Oui.
Mais
c'est une structure. C'est une structure que tu retrouves dans toute ta vie.
Ça.
Dans ce que tu fais.
Des idées totalement différentes.
Pas du tout.
De vouloir construire une maison. Non. Finalement, de vouloir.
C'est subjectif. C'est une idée que tu. C'est une structure que tu retrouves où tu veux. On en avait parlé dans le chapitre 51 de Tania, mais là on l'a bien développé. D'accord. Oui.
Je sais pas, j'aime bien moi le mien.
Je vais essayer d'appliquer la même chose dans la maison. D'accord. Je vais finir avec ça. On va finir avec ça. Dans la maison. On va retrouver exactement les mêmes étapes. Regarde, tu as d'abord la volonté d'avoir la maison. Ensuite, tu as l'idée d'avoir la maison. Tu vois ta maison. Ensuite, on a dit, tu développes. En fait, tu vas commencer à développer telle chambre, il faudra faire telle course, et tel peintre, et telle personne, il faudra casser tel mur, etc. Il faudra faire tel mur. C'est le développement. Le va, c'est quand tu commences déjà à en communiquer, à en parler, à ressentir. Le hé, c'est une fois que déjà tout est clair, tu as déjà communiqué, tu vas dire à l'entrepreneur, tu dis, faites-moi ci. Ça, c'est le hé, ça. On a retrouvé la même structure. Exactement la même structure. C'est la même chose. Non, partout dans la vie, on retrouve ça. De la même manière, chez Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, on a toutes ces étapes. Alors, bien sûr, ça veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu réfléchit et qu'il parle, etc. Mais ça veut dire que, chez toutes les autres créatures, la seule chose que le seul point sur lequel ils peuvent communiquer avec Akadosh Baruch Hu, c'est sur le dernier. C'est-à-dire que eux, c'est des clients. Eux, c'est des clients, ils peuvent voir que le produit final. Eux, c'est la dernière lettre, le dernier. C'est des clients, voilà, on leur propose un produit. Mais ils sont pas capables de comprendre tout ce qui s'est passé dans la création du produit. Nous, on est dans la tête de Dieu. Nous, on est capable de retracer l'idée depuis le début. Le gars, il vient te proposer un produit, tu lui dis, monsieur, votre produit, je le connais avant même que vous avez eu l'idée.
Ah, ça, c'est énorme.
Ah, ça tue, ça. Le gars, tu le mets dehors.
Comment ça?
Le hé, en général, toutes les autres créatures, c'est quoi? C'est le dernier hé. C'est-à-dire que bon, c'est un client. C'est le client, tu viens, tu lui proposes, et c'est la seule chose qu'il connaît. Il connaît ce que tu lui dis. Ce que tu lui dis pas, il connaît pas. Nous, le Ham Israël, on a le hé, mais on a aussi le yud et le hé et le vav. C'est-à-dire qu'on on retrace le produit depuis le début. Donc tu comprends que c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais ça, on va développer la semaine prochaine. Comment on va retrouver le yud kevavke dans notre neshama qui correspondra.
Bezrat Hashem, Bezrat.
D'accord. Qui correspondra à ce fameux yud kevavke. C'est une structure qu'on retrouve dans toute la vie. Et c'est pas seulement une structure. Ça correspond, c'est la même chose. Yud kevavke, on va retrouver exactement le même yud kevavke dans notre neshama. C'est-à-dire que notre Neshama va être capable de rentrer dans les rouages de la création du monde. Ça, c'est extraordinaire.
Bon. Ouais, c'est ça qu'on veut.
Bah oui. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on peut pas comprendre qu'est-ce que c'est une mitzvah, qu'est-ce que c'est une avera, pourquoi c'est grave. Là, il faut d'abord comprendre ça, sinon on peut pas avancer. On continue la semaine prochaine, grâce à la chaîne. On s'arrête là.